l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, direction Bayonne, pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescarret et Oloron, avec la responsable de la communication, c'est Violaine Ricourt-Dumas, qui sera en duplex depuis Bayonne. On reviendra avec elle sur le pèlerinage basco-béarnais qui s'est déroulé le week-end dernier au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et puis on parlera également de la maman de Carlois Coutis qui sera dans le diocèse de Bayonne dans quelques jours. Et puis dans cette émission, on retrouvera Anne-Rose Jean. Depuis l'âge de 2 ans, Lydie Solomon développe son art et ses talents. Au cœur de sa carrière internationale, Dieu s'est manifesté. Lydie Solomon est musicienne et amène vraiment une carrière formidable. Elle sera l'invitée d'Anne-Rose Jankovic dans une poignée de minutes. Au cœur de ce magazine, c'est l'actualité avec à 12h30 le journal régional présenté par Éric Leclerc. Et Éric, on le retrouve maintenant pour les titres à la une de l'actualité.
La justice à nouveau saisie dans le projet de ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux. Un nouveau recours des militants anti-LGV est étudié par le tribunal administratif de Toulouse depuis lundi. Il demande la suspension des travaux débutés l'année dernière. Il dénonce des risques pour l'environnement et la qualité de l'eau. Autre critique, le manque de recherches alternatives à la construction de voies supplémentaires, alors que pour eux, la modernisation des voies actuelles aurait pu suffire. Inauguration d'une unité de méthanisation de la station d'épuration du Verdier à Montauban. Cette mise en service marque l'aboutissement d'un projet ambitieux afin d'accélérer la transition écologique du territoire dans un contexte de raréfaction des ressources en eau et d'urgence climatique. Toulouse, primée avec l'obtention de 4 fleurs, le jury du label national Villes et Villages Fleuris a rendu ses résultats jeudi dernier. Toulouse a obtenu la plus haute distinction, à savoir la 4e fleur. Pour délibérer, le jury prend en compte plusieurs critères tels que la valorisation de l'espace public grâce aux aménagements paysagers, la préservation de la biodiversité et les moyens mis en œuvre pour l'entretenir et la développer.
Merci Éric Leclerc, à tout à l'heure midi et demi pour développer ces titres dans le journal. Dans un instant, on prend l'autoroute A64 direction Bayonne pour retrouver Violaine Ricourt-Dumas. Violaine est la responsable de la communication pour le diocèse. On va détailler l'agenda des prochains jours.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence à Salis-du-Salat, 94.1.
L'agenda des diocèses nous amène de maintenant à Bayonne avec Violaine Ricourt-Dumas, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Violaine.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Avant de parler de l'agenda des prochains jours, retour sur le week-end dernier, vous avez vécu un beau pèlerinage diocésain au sanctuaire de Lourdes.
Et oui, c'était un grand moment pour notre diocèse, comme chaque année en cette rentrée. Le pèlerinage de l'hospitalité basco-béarnaise qui rassemble donc, qui emmène un peu plus de 400 malades chaque année à Lourdes. Ça dure plusieurs jours. Et puis dimanche, c'était le sommet de ce pèlerinage où tous les diocésains étaient conviés. Il y avait à peu près 4000 personnes qui étaient présentes donc à l'église Sainte-Bernadette. Une très belle messe Et puis ensuite, il y a eu les vêpres et la procession eucharistique. Alors, on a eu la pluie qui s'est invitée sur la fin de la journée, mais c'est donc on était dans la basilique Saint-Pédis. Mais c'était un très beau moment de pèlerinage tous ensemble, donc chez vous à Lourdes.
Voilà, et pour ceux qui n'ont pas pu se rendre au sanctuaire de Lourdes, eh bien nous avons retransmis la messe diocésaine en direct sur les antennes de Radio Présence et de Radio Lapourdie dans le Pays Basque. On peut retrouver d'ailleurs des photos et vidéos sur diocèse64.org, votre site internet. On évoque maintenant l'agenda du diocèse avec ce vendredi une lecture priante de l'Évangile selon Saint Jean.
Oui, c'est le début de cet atelier proposé par la formation permanente du Béarn qui propose donc une lecture priante de l'évangile de Saint Jean. Ça se passe au centre diocésain du Béarn, toujours avenue de l'église Saint-Joseph à Pau, avant qu'il y ait le déménagement cette année. Mais pour l'instant, c'est toujours là, avenue de l'église Saint-Joseph, en face de l'église Saint-Joseph. Une formation donc qui est proposée plusieurs vendredis, un vendredi par mois. C'est le matin de 9h30 à 11h30, donc pour prier avec l'évangile selon Saint Jean. Donc ça c'est à Pau, et puis elle est proposée également à Soumoulou à partir de mercredi prochain et à Oloron-Sainte-Marie à partir de jeudi prochain. Vous pouvez retrouver les informations sur le site du diocèse dans l'agenda. Vous avez tous les détails de cette proposition.
On poursuit avec ce premier rendez-vous pour l'œuvre de Carlo Acutis. C'est au sanctuaire Notre-Dame du Bout du Pont à Pau.
Oui, donc Carlo Acutis qui a été canonisé le 7 septembre par le pape Léon XIV. Le sanctuaire Notre-Dame du Bout du Pont propose à cette occasion une activité pour les jeunes. Donc c'est à destination des lycéens, étudiants et jeunes pros. Il y aura un vendredi sur deux une soirée selon l'œuvre de Carlo Acutis. Alors il y aura de la louange, de l'adoration, des maraudes dans Pau, des témoignages. Et le premier rendez-vous est donc demain à 18h30, rendez-vous au sanctuaire Notre-Dame du Bout du Pont qui est juste en dessous de Pau, 19 rue du Général d'Auture à Pau. C'est vraiment entre Pau et Jurançon, ce sanctuaire qui a été érigé sanctuaire il y a 2 ans maintenant, refuge de la mère et l'enfant, et qui vous propose donc un vendredi sur deux pour les jeunes de venir agir selon l'œuvre de Carlo Acutis. Rendez-vous demain soir à 18h30 au sanctuaire.
Puisqu'on parle de Carlo Acutis, eh bien la maman de Carlo Acutis sera dans votre diocèse dans quelques jours.
Tout à fait, ce sera le samedi 4 octobre, hein, une soirée vraiment qui vaut le coup. Ce sera une soirée de témoignage avec Antonia Acutis, donc la maman de Saint Carlo Acutis, qui sera présente avec le père Will Conquier. Ils vont venir parler de l'œuvre et de la vie de ce jeune saint. Ce sera dans l'église Saint-Jacques de Pau. On prévoit beaucoup de monde, bien sûr. Hein, ce sera à partir de 20h, la conférence. Ensuite, il y aura un temps d'adoration, un temps de dédicace du livre écrit par le père Will Conquier, Le secret de mon fils, Carlo Acutis. On pourra se procurer le livre sur place, et on a même prévu un car pour ceux qui viennent de loin, qui partira de Saint-Jean-de-Luz et qui passera par Orthès, par Bayonne et Orthès. On peut donc réserver son trajet en car si on le souhaite en passant par le site du diocèse. C'est une soirée organisée par la pastorale des jeunes du diocèse. On a la chance donc de pouvoir voir et écouter la maman de Carlo Acutis, donc samedi 4 octobre prochain.
Voilà, ne pas manquer. Donc on poursuit l'agenda avec la soirée Pétale de Rose. Ça va se passer à Naï.
C'est une soirée qui est proposée par la communauté des Béatitudes chaque année pour prier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Et bien donc ces soirées Pétales de Rose sont là pour ça. On peut déposer une lettre, bien sûr on va prier Sainte Thérèse. C'est donc proposé ce week-end, samedi et dimanche à partir de 17h à la communauté des Béatitudes à Naï, donc entre Pau et Lourdes. Donc c'est rendez-vous à 17h à Naï, 18 Côte Saint-Martin. Et puis cette soirée Pétale de Rose sera également proposée à Pau la semaine prochaine à l'église Sainte-Thérèse. Donc ce sera exactement, si je retrouve la date, jeudi 2 octobre, jeudi prochain, soirée Pétale de Rose à Pau à l'église Sainte-Thérèse, donc pour prier Sainte-Thérèse avec la communauté des Béatitudes de Naï.
On poursuit et on termine avec une conférence qui sera donnée à Pau par les associations familiales catholiques.
Ça se passera au lycée Immaculée Conception de Pau, 7 boulevard Édouard Herriot. C'est une conférence d'Aude Mirkovic, qui est présidente de l'association Juristes pour l'enfance. Et ce sera sur le thème de la question de genre chez les enfants et les adolescents. C'est vrai que c'est un sujet de société, ce questionnement de genre. Donc on va essayer de décrypter un petit peu de quoi il s'agit, quelles sont les réponses à donner quand un enfant se pose la question de genre. Donc conférence qui s'annonce passionnante mardi prochain à 20h30 à l'Immaculée Conception de Pau. C'est organisé par les associations familiales catholiques de Pau.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescaret et Oloron, diocèse64.org, c'est le site internet de votre diocèse. Voilà, on entend encore un peu de travaux à côté de chez vous, ça se passe à la cathédrale. Hein.
Oui, ça ne se termine jamais. Alors là, c'est plus la cathédrale maintenant, c'est la médiathèque qui est à côté de la cathédrale. Mais donc, effectivement, toujours un petit peu de bruit de travaux.
Allez, très bien. Eh bien, un grand merci, Violaine Ricourt-Dumas. On vous souhaite une belle fin de semaine du côté de Bayonne. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse. Et puis, on se dit à très vite hein, sur Radio Présence. Un grand merci.
Merci, bonne semaine à vous.
Présence.
Lydie Solomon est musicienne depuis l'âge de 2 ans. Elle développe son art et ses talents. Et au cœur de sa carrière internationale, Dieu s'est manifesté. Elle témoigne dans un instant au micro d'Anne-Rose Jankovic. Et puis à 12h30, Éric Leclerc sera de retour pour le journal régional. Très bon appétit à vous qui nous écoutez dans notre région Occitanie. Très bon jeudi à l'écoute de Radio Présence. Présence Midi se poursuit avec l'invité d'Anne-Rose Jankovic.
Radio Présence dans le Lauragais, 97.9.
Bonjour Lydie Solomon.
Bonjour Anne-Rose.
J'ai cherché longtemps par où commencer pour vous présenter, tant votre parcours est époustouflant. Vous êtes une artiste, une pianiste, une actrice, une chanteuse, une compositrice. Vous avez commencé le piano à l'âge de 2 ans et donné votre premier récital à l'âge de 10 ans. Alors ça pourrait suffire pour nous épater, mais votre vie est une quête de toujours plus de travail peut-être, plus de talent, plus de beau, plus de sens. Une quête où Dieu a su se manifester, une quête où vous avez su entendre la voix de Dieu. On va essayer de balayer un petit peu tout ce parcours-là avec vous aujourd'hui, Lydie. Ma première question, c'est de savoir ce qui se passait dans la tête de cette petite fille de 2 ans que vous étiez quand on vous a mis devant un piano à l'âge de 2 ans. D'abord, c'est pas donné à tous les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les souvenirs sont peut-être un peu flous, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette petite enfance où tout d'un coup vous découvrez ce talent?
Je n'ai pas le souvenir précis d'avoir posé mes mains sur le clavier à 2 ans. En revanche, le plus ancien souvenir que j'ai dans ma vie, effectivement, est associé au piano. C'est-à-dire que j'ai mené toute ma vie avec mon plus ancien souvenir qui remonte à plus antérieur encore que le fait d'apprendre à marcher, à parler, à même à savoir tenir ses couverts. Donc ma vie est intimement liée au piano. Mais j'ai des souvenirs de petite enfance quand j'avais 5 ans, quand je suis rentrée donc sur dérogation du directeur de l'école normale de musique Alfred Cortot à Paris, où mes pères avaient souvent 10 ans de plus que moi. Je suis rentrée dans cette école, cette grande institution à Paris, boulevard Malesherbes. Mmh. Et j'ai des souvenirs de... Alors j'appelais ça des extases avant de connaître le jargon, le jargon de la foi qui m'a saisi plus tard. Mais c'était vraiment des moments de grande jubilation dans ce cerveau et ce cœur de petite fille qui découvrait la musique et qui découvrait le solfège, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, n'en déplaise à mes pères, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui peut paraître un petit peu rébarbative. Non, moi, je l'ai trouvée vraiment lumineuse. Et donc, la musique m'a parlé toute petite. Mais pas que. C'est-à-dire que ça n'a pas été que la musique qui m'a parlé.
Mais néanmoins, la musique a joué, du coup, un rôle important dans votre éducation. Quand on a 2, 5, 10 ans, les parents sont là pour nous aider à grandir. La musique vous a aidé à grandir, vous a éduqué.
Bien sûr. Vous savez, j'ai une anecdote d'un mon professeur du conservatoire à la Villette, donc le CNSMDP, un jour, il me met une partition de Beethoven. Il me dit, déchiffre-la. Et je l'avais jamais, peut-être entendu de loin, mais je l'avais jamais joué. Et je commence à la déchiffrer. Donc là, j'avais plutôt 16 ans. Et c'est comme une évidence de cette musique qui se déroule sous mes doigts. Et il me dit, toi, t'as écouté Beethoven dans le ventre de ta maman. Et je rentre chez moi et j'étais très contente et j'ai dit à ma mère, tiens, mon professeur m'a dit que j'avais écouté Beethoven dans ton ventre. Elle me regarde, elle me dit, mais c'est vrai. Quasiment toute ma grossesse, j'ai écouté du Beethoven. Donc, je n'ai pas souvenir d'avoir été dans le ventre de ma maman, mais c'est vrai que mes plus anciens souvenirs sont vraiment liés à Beethoven. C'est vrai que Beethoven, je me sens très intimement liée à Beethoven, mais pas que. Hein, j'aime Chopin, j'aime Rachmaninov, j'aime beaucoup Schumann. Mais c'est vrai que Beethoven, j'entretiens un rapport vraiment presque surnaturel, on va dire, avec avec sa personnalité et sa musique.
Quel était le regard des adultes qui vous entouraient? Alors, on imagine évidemment que ce sont vos parents qui ont dû percevoir quelque chose de particulier en vous pour vous permettre très très jeune de pouvoir jouer du piano. Mais ensuite, on comprend, vous avez été entouré d'adultes très très tôt, très jeune, plus jeune que la normale. Est-ce que ce regard des adultes n'était pas trop lourd à porter pour la petite fille que vous étiez, ou pour la jeune adolescente que vous étiez?
Si, et d'ailleurs, c'est vrai que le fait d'avoir rencontré la foi beaucoup plus tard dans ma vie, je me suis souvent dit, tiens, si j'avais eu cette foi construite, pas intuitive, mais construite plus tôt, peut-être que j'aurais eu des armes pour faire face à ce vrai défi. Car c'est un défi quand on est haut comme 3 pommes et que les doigts vont très vite et que ça semble facile et naturel et que les adultes vous regardent avec un regard presque avide de vous savez, de ces adultes qui projettent leur fantasme de l'enfant prodige, la plus jeune, la plus douée. Quand j'étais petite, je n'avais absolument aucune notion de cela, à tel point que le premier concert que j'ai donné à 10 ans, vous l'avez mentionné, eh bien, je l'ai donné en toute innocence, en fait, sans réfléchir, et saisie d'une forme de pudeur, je suis sortie de scène et je suis allée dans le parc du château, c'est dans un château en Belgique, et je suis allée grimper en haut d'un arbre. Parce que pour moi, ce qui était plus important, c'était la vie, la spontanéité, j'étais très sportive aussi. Et ma meilleure amie m'a couru après en me disant « Ils veulent des autographes !» Alors, j'avais une sorte de petite cour derrière d'adultes qui venaient avec leur programme au pied de l'arbre, me demandant un autographe. Alors, je suis descendue de l'arbre, j'ai inventé une signature, car je n'avais même pas réfléchi pas réfléchi à mon autographe. Et je suis remontée en haut de mon arbre, tel Diogène, qu'il ne fallait pas déranger dans ces activités connectées à la nature.
Mais vous en avez souffert de ça? De cette pression où vous disiez bah oui c'est normal, j'ai un don, j'ai un talent qui est pas commun, donc c'est ma vie. Comment vous réagissiez face à cela?
Sur le coup je me disais pas j'en souffre, mais je sentais des décalages, de vérité, puisque moi je jouais vraiment non pas pour la communication, pour plaire, pourquoi je jouais, parce que je me sentais appelée à jouer. Mais après, assez vite, j'ai compris quand même le système, de la compétition, du dépassement de soi. Ça m'a pas forcément fait souffrir, dans le sens où peut-être c'est ma culture coréenne aussi. Hein, ma mère était très dans cette culture compétitive, élitiste.
Oui, votre maman est coréenne, votre papa est franco-roumain.
Exactement.
Voilà, donc il y a aussi ce mélange des cultures qui est important dans votre parcours.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est dans la Corée de l'après-guerre où ma mère a grandi dans cette Corée qui était vraiment du tiers-monde. On regardait beaucoup l'Occident. Et on regardait beaucoup le patrimoine occidental. Ouais. Et la musique classique faisait partie des Eldorado de la Corée. Mmh. Donc je pense que pour elle, c'était aussi un objectif. Ça n'a pas été un objectif pour moi. Ça n'a jamais été un rêve de devenir pianiste, puisque je suis née pianiste. Mmh. En revanche, pour ma mère, je pense que c'était important d'aller vraiment dans ce dépassement de soi, dans cet élitisme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement un peu galvanisée aussi par cette énergie. Et donc il faut reconnaître qu'au bout d'un moment, bien il y a un nettoyage à faire, un nettoyage intérieur de est-ce que je fais du piano parce que je plais, j'épate et je gagne tous les prix, ou parce que j'aime la musique et je suis à ma place.
Oui. Alors, quand même, tout à l'heure, vous disiez que à ce moment-là, vous n'aviez pas la foi. Néanmoins, quand même, dans vos témoignages que vous donnez ici et là, vous parlez de lettres à Dieu que vous écriviez. Oui. Très jeune, vraiment enfant. Vous nous dites là, vous le confiez à Dieu à ce moment-là?
Oui, oui, oui. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas la foi construite que j'ai rencontrée après par les évangiles, mais j'avais une foi intuitive, une foi qui était brûlante quand même, et que je ne savais pas comment exprimer. Et quand j'ai découvert le miracle de l'écriture, eh bien, mes premiers écrits, je les destinais à Dieu. Donc, j'écrivais des lettres à Dieu quand j'avais 7 ans. J'ai commencé à lui écrire des lettres, mais c'était une foi totalement intuitive. Je ne savais pas qui était Jésus.
Vous n'aviez pas reçu d'éducation
catholique, non, pas du tout. Quoi. Je voyais mes copines qui allaient au catéchisme ou à la synagogue après l'école, mais je ne savais pas du tout. Alors une fois, je me suis retrouvée à la messe, obligée par une amie chez qui je dormais, justement encore en Belgique, c'est encore cette amie, et elle m'a appris le Notre Père la nuit, je l'ai récité toute la nuit, je trouvais que c'était très beau, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Il y avait quand même une soif.
À la messe. Hein. Alors, il y avait une soif, de toute façon, j'avais le sentiment de Dieu, le pressentiment de Dieu quand j'étais petite, mais c'était absolument pas construit. Quand même, ma relation à Dieu était très très proche, mais très secrète aussi, et donc très friable. Parce que j'ai eu une enfance comme il y a plein d'enfances, et la mienne n'était pas des plus faciles, on va dire. Et
pas des plus faciles à cause de l'exigence du conservatoire.
Partie, exactement. Et... Oui, le fait d'être une enfant qui est à la place d'une adulte, finalement. Oui. Ouais. Ça, c'est quand même un défi de taille auquel on n'est pas préparé, pas des écoles d'enfants prodiges. On vous met juste là, et il se trouve que ça me correspondait. Donc, c'est peut-être encore pire. Comme disait un ami qui m'est cher, il n'y a rien de pire que quand quelqu'un choisit pour vous ce que vous auriez choisi à vous-même. C'est difficile. Après, il faut faire la part entre tous ces nœuds. Mais finalement, le Seigneur m'a permis de le faire plus tard. Et donc oui, quand je suis petite, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais par contre, je sais que quand je suis au piano, là, c'est la vérité qui se dégage. Donc à 13 ans, effectivement, comme ma relation à Dieu était totalement intuitive et secrète, J'ai eu des épreuves, comme beaucoup d'enfants. Puis je regardais la fin dans le monde, les guerres. J'ai dit non, Dieu ne peut pas exister puisque c'est un Dieu d'amour. Mmh. Et donc, dans ma logique de petite fille, j'ai écrit une lettre d'adieu à Dieu.
Dans votre logique de petite fille adolescente, du
oui,
coup.
Exactement, voilà, oui, qui devenait adolescente et qui ne comprenait pas ouais. cette logique d'un Dieu qui aime et qui laisse ses créatures mourir de faim, de souffrance.
Donc, une lettre d'adieu à Dieu et ouais. après, il terminait.
Terminé, totalement terminé. Et même un rejet, nourri par l'anticléricalisme de mes parents, qui eux étaient de confession juive plutôt par mon père et de confession bouddhiste par ma mère, mais c'était plutôt culturel. C'était plutôt folklorique, on allait à des fêtes de famille, c'était rigolo, mais ça n'allait pas plus loin. Il n'y avait pas de spiritualité vraiment nourrie.
On marque une pause, Lydie Solomon, et puis on vous retrouve dans un instant pour poursuivre cet entretien et découvrir la suite de votre parcours. À tout de suite.
Merci Anne-Rose Jankovic, et on vous retrouve avec votre invité juste après le journal régional présenté par Éric Leclerc.
Bonjour, journée de mobilisation des agriculteurs, vendredi 26 septembre à l'appel de plusieurs syndicats agricoles. Une mobilisation pour dire non aux incohérences et concurrences déloyales que subissent les producteurs, aux accords commerciaux qui menacent les standards et les filières, au Mercosur, où l'agriculture est la variable d'ajustement. Des manifestations et des blocages sont prévus demain vendredi. Journée de sensibilisation au risque ferroviaire en gare de Toulouse-Matabiau, vendredi 26 septembre. En Occitanie, 250 000 personnes fréquentent chaque jour les gares. Afin de sensibiliser les utilisateurs au bon comportement à adopter pour limiter les risques ferroviaires en gare, une journée de prévention est organisée ce vendredi de 6h30 à 18h30. Des agents SNCF volontaires, reconnaissables à leur gilet de sécurité orange, arpenteront les deux halls de la gare de Toulouse-Matabiau. Ils iront à la rencontre des voyageurs et passants pour échanger à propos des potentiels risques ferroviaires présents en gare, l'impact des distracteurs d'attention sur le non-respect de la signalisation, la traversée sauvage des voies, la proximité avec les bordures de quais et la circulation en gare sur des engins motorisés ou non. La ville de Millau vient d'obtenir la quatrième fleur, la plus haute distinction du label Villes et Villages Fleuris. Elle entre dans le club très select des 310 communes sur les 4700 labellisées dans le pays. Ce niveau d'excellence est attribué aux collectivités qui inscrivent la nature dans un projet global alliant cadre de vie, biodiversité, patrimoine, gestion durable et participation citoyenne. 26 nouvelles communes sont labellisées, 4 fleurs en France en 2025, 2 nouvelles communes labellisées en Occitanie. Millau et Toulouse. La troisième édition de Lourdes couleurs du monde se déroule samedi 27 septembre de 14h à 20h30 au Jardin des Tilleuls avec repli au Palais des Congrès en cas de pluie. Un après-midi pour célébrer la diversité culturelle de Lourdes à travers des jeux en bois, des jeux du monde et un concert pour petits et grands. Cet après-midi d'échanges et de rencontres culturelles et musicales est rendu possible grâce à la participation de près d'une vingtaine de partenaires locaux. Le festival Festimage à Cahors, territoire du monde, célèbre cette année sa 10e édition avec de nombreux événements autour du thème rêverie à Cahors et à Bégou. Du 27 septembre jusqu'à fin octobre, le coup d'envoi sera donné ce vendredi 26 septembre à 18h au cinéma Le Grand Palais avec la projection exceptionnelle du film Le sel de la terre, un hommage au célèbre photographe Sebastião Salgado. Le programme est disponible sur clic-image.com. Le Muséum d'histoire naturelle Victor Brun à Montauban va faire l'objet de travaux de fin septembre à mi-novembre. Au programme, la réfection totale du toit ainsi que la création d'un espace d'accueil et d'une boutique. Le muséum sera donc fermé au public. Pour rappel, le Muséum d'histoire naturelle Victor Brun a ouvert ses portes en 1854. L'établissement accueille plus de 2500 spécimens se déployant sur plusieurs salles.
Merci Éric Leclerc, voilà pour l'actualité régionale. À 13h, c'est l'information nationale et internationale sur Radio Présence avec la rédaction française de Radio Vatican. Pour le moment, on retrouve Anne-Rose Jankovic en studio, toujours avec son invité.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9.
Nous sommes toujours en compagnie de l'artiste Lydie Solomon. Alors, Lydie, juste avant la pause, vous nous expliquiez comment il y a eu cette rupture finalement avec Dieu, puisque petite, vous lui écriviez des lettres et tout d'un coup, à 13 ans, vous lui dites adieu, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez poursuivi votre formation de musicienne, hein, puisque d'artiste, de pianiste, puisque vous êtes sortie du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec le premier prix, mention très bien. Vous avez suivi des cours, les cours Florent, donc une soif de plein de choses, et puis vous avez suivi aussi des études prestigieuses, on peut dire. Finalement, on a l'impression, quand on regarde votre parcours, que vous avez cherché un petit peu toutes les voies, mais tout le temps le prestige.
Bon, c'est pas le prestige pour le prestige, c'était parce que j'avais une soif d'apprendre et d'élargir mon champ d'expression et d'être dans le monde, qui est quand même très vaste. Et c'est vrai que c'est au conservatoire, eh bien, on est, vous savez, quand on est expert d'une matière, eh bien, on carotte, on creuse son sillon, mais on regarde pas forcément ce qu'il y a autour. Et c'était vraiment le cas en musique classique. On a tellement besoin d'une maîtrise technique, tellement vraiment, c'est une maîtrise folle, enfin, de son art, qu'on n'a pas le temps d'aller voir comment tourne le monde, en fait.
Ah oui.
Et moi, ça me manquait de voir comment tourner le monde. Et puis, vous savez, oui, je suis un oiseau libre. Je suis un oiseau libre dans le sens où j'ai besoin d'aller voir d'autres horizons, d'autres contrées, d'autres cultures. Ce que ne me permettait pas le conservatoire, mais qui m'a permis un petit peu, parce que j'ai pris des cours de théâtre au conservatoire. C'était des options, hein, avec Georges Verlaire, qui était le metteur en scène de Michel Bouquet. Et j'ai eu des cours de prestige, là aussi, mais enfin, de prestige dans le sens vraiment de la vérité. C'était vraiment des cours en vérité, au plus haut niveau de cet art que je découvrais et que j'aimais beaucoup. Mais j'aimais aussi écrire. J'ai fait un stage chez Flammarion, aux côtés de Frédéric Becbédé, où j'étais son assistante en tant que... lorsqu'il était directeur littéraire. Donc j'ai eu besoin vraiment de plusieurs expériences pour enrichir les cordes à mon arc, et que finalement mon art ne soit pas juste un art d'interprète, ce qui est déjà immense et qui est déjà mon fil rouge dans ma vie, mais vraiment une façon de chanter, de dire et de me présenter et de m'exprimer et de pouvoir surtout me connecter aux uns et aux autres.
Alors, est-ce que c'était un défi de découvrir tous ces chants-là sans vous éloigner finalement du piano, qui est votre cœur?
Alors, c'est un défi dans la pratique, mais pas dans l'esprit. C'est-à-dire que dans l'esprit, il n'a jamais été question que j'arrête le piano. Et même les fois où, vous savez, moi j'ai une relation un peu de couple avec mon piano. Hein. Je t'aime, je te déteste, je te quitte, moi non plus.
Artistes sont quand même des personnes particulières.
Oui, parce que c'est un rapport tellement fusionnel et tellement intime, que voilà, on va vraiment dans les abysses de l'âme pour explorer des choses qui sont tellement indicibles. Et puis, vous savez, Baudelaire, la correspondance des sens, la synesthésie, c'était quelque chose qui est très présent en moi aussi. Et donc le piano, non pas qu'il était insuffisant, mais j'avais besoin de lui donner des alliés, quoi, des amis.
Et vous les avez trouvés?
Oui, je les ai trouvés. Mais il n'a jamais été question que j'arrête le piano. En tout cas, même s'il y a des périodes où j'ai fait moins de concerts, le piano était toujours mon fil rouge. Par contre, oui, c'est un défi de garder ça au plus haut niveau, et j'ai tenu à le faire quand même. Donc, tous les jours de ma vie, je me mettais au piano pour vraiment garder cette excellence dans mes doigts.
Est-ce que c'était une manière aussi pour vous, eh bien, d'avoir une certaine liberté et de vous dédouaner peut-être un peu des pressions de ceux qui pouvaient vous dire, voilà, tu es pianiste et c'est là ta voix et on t'attend là, besoin de toi dans cette voie-là.
Tout à fait, tout à fait. Alors, oui, me dédouaner, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas de sens pour moi de rester expert d'un domaine sans aller voir, comprendre les autres cultures.
Les autres, oui.
Voilà, donc ça, pour moi, c'est très très important de comprendre comment un compositeur compose. Comment Chopin a composé? Comment je peux jouer une œuvre de Chopin si moi-même je ne sais pas ce que c'est que cet exercice de composition? Chopin était un excellent comédien aussi, un comique. Il imitait les gens. Léonard de Vinci, on sait que, on connaît Michel-Ange, Léonard de Vinci, ce sont des grands artistes qui se sont fait connaître pour des œuvres très variées. Et ils avaient cet humanisme et cette ouverture à 360. Et c'est parce qu'on compose qu'on peut comprendre, tiens, cette sonate de Chopin, je l'entends différemment parce que j'ai composé moi-même quelque chose. Schumann était un poète, il mettait en musique des poèmes, ses poèmes qu'il écrivait aussi. Et donc, il faut écrire un poème pour comprendre ce que c'est que la musique d'un poème aussi. Donc pour moi, c'était très important ça, pour
devenir une artiste complète. Ça a changé votre manière de jouer? Est-ce que votre rapport au piano a changé après? Alors j'ai l'impression, quand vous nous racontez tout ça, que finalement vous étiez peut-être un peu sous cloche et tout d'un coup, vous avez découvert un tas d'autres univers.
Oui,
qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport au piano?
En fait, je l'ai toujours entretenu depuis toute petite. J'enregistrais des cassettes pour mes doudous. J'inventais des histoires. J'écrivais des romans. J'ai écrit 5 romans qui sont encore dans mon tiroir. Avis aux éditeurs. Mais je jouais la comédie aussi. J'ai pris des cours de théâtre. Donc c'était déjà en moi. Après, par contre, ce qui a changé effectivement, c'est cette possibilité de dire au fond. Et c'est un jour quand j'ai rencontré un comédien que vous connaissez sans doute, qui est Pascal Légitimus, qui a presque autoriser ce que je pensais en me disant écoute, toi tu devrais faire exprimer plusieurs arts dans un spectacle. Oui. Et bien tu pourrais jouer la comédie, chanter, danser, jouer du piano. Je l'avais déjà fait un petit peu, mais à titre un peu timide. Et effectivement, on a commencé à écrire, et donc on est toujours en train d'écrire d'ailleurs, ce qui sera un one woman show ou un stand-up musical. Donc je suis au piano, mais je chante, je m'adresse et je scénarise mon concert.
Et ça sortira quand?
Exact. Eh bien, il y aura une ébauche de cela déjà le 19 octobre, en la chapelle des pénitents à Montléon-Magnouac, puisque je fais un concert, mais je l'ai déjà fait à Paris aussi, mais à chaque fois c'est un petit peu plus peaufiné, où c'est l'histoire d'une pianiste qui commence un concert, qui fait une fausse note, et qui met fin à sa carrière. Et qui explique, finalement, qui raconte toute sa vie, comment l'exigence de l'excellence a pu avoir un impact sur son être et sur sa façon de jouer, et comment elle veut se libérer de cette prison et comment finalement elle va s'en libérer.
Alors moi j'aimerais bien savoir comment vous vous êtes libérée de toutes ces questions qui peut-être vous tourmentaient à une période. En tous les cas, c'est ce que vous dites dans un de vos témoignages, que vous étiez quand même en recherche, et puis on sent parfois un peu de colère, enfin vous cherchiez votre... voilà, ce qui allait vous épanouir, tout d'un coup, vous reconnectez à Dieu. Qu'est-ce qui se passe pour que, eh bien, dans votre vie très épanouie d'artiste qui connaît plein de domaines, qui sait tout faire, comment Dieu, tout d'un coup, est revenu?
Dieu est revenu par la comédie. Car j'ai joué dans un film, donc quand je suis sortie de l'ESSEC, j'ai fait le cours Florent, et je rencontre un réalisateur qui me propose de tenir mon propre rôle dans un film, un deuxième long-métrage, qui s'appelle Vivre, qui est sorti au cinéma en 2009, et où donc j'incarne une pianiste concertiste qui raconte ses joies, ses peines, ses doutes et ses convictions. Et ce film étant sorti, j'ai eu un agent cinéma qui un jour m'appelle, plusieurs années après, qui me dit « Voilà, on cherche une Bernadette Soubirous. » Je ne connaissais pas du tout cette personne, donc j'ai commencé à me renseigner sur cette figure. Et j'étais très très loin de Dieu à l'époque. J'étais vraiment assez moqueuse même des grenouilles de bénitier. Et donc je commence à lire sa vie, et je dois reconnaître que dans sa vie il y a quelque chose qui me saisit. Alors je me prends d'amitié avec elle, même si c'est une sainte qui est morte il y a 150 ans, mais je me sens vraiment proche d'elle. Et ce qui m'a touchée chez elle, c'est son aplomb, sa vérité, son aplomb devant les autorités. Elle n'a pas failli un seul instant, elle n'a pas douté. Ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu, et elle avait juste
ce rapport à la vérité. Ça vous parlait, puisque vous disiez au début de notre entretien, quand on est devant le piano, on est vrai, quoi.
Exactement.
On lâche tout en vérité.
Exactement. Et quand j'étais au piano, je lâchais tout, mais tout ce qu'il y avait autour, faut reconnaître qu'il y a beaucoup de faux semblants quand même. Mmh. Il y a beaucoup de paillettes, de paraître, oui, il y a quand même beaucoup de mensonges. Moi, j'ai découvert les mensonges des adultes, et ça, c'est quelque chose que je ne supportais pas, parce que ce qui m'intéressait avant tout, c'était la pureté de cœur. Et cette pureté de cœur de Bernadette Soubirous, elle m'a touchée directement. Et donc, j' ai voulu m'intéresser à tous les aspects de sa vie, comment elle marchait, comment était sa voix, comment elle était habillée. Donc, je suis allée à Lourdes, comme vraiment une touriste pour la première fois. Je suis venue à Lourdes, plutôt, et j'ai rencontré le chaplain de Lourdes qui m'a dit, mais écoutez, vous devriez, le Père Régis Marie de la Tessonnière m'a dit, vous devriez lire les évangiles, puisque c'est le livre auquel elle croyait. Et je suis rentrée chez moi et j'ai lu les évangiles. J'ai essayé de trouver une Bible, j'en avais pas, donc mon époux m'a donné sa Bible de première communion qui était sous un tas de poussière. Je l'ai lue et j'ai été saisie de coup de foudre. Le coup de foudre, vraiment, l'écriture m'a attrapée tout entière.
On peut parler de conversion pour vous, vous l'avez vécu comme une...
Je l'ai pas dit comme ça sur le coup parce que encore une fois, j'avais pas du tout le jargon catholique. Oui. Moi, tout ce qui m'a intéressée sur le moment, c'était la figure de Jésus. Mmh. Et j'ai dit, cet homme est vrai, et il n'y a que lui que je veux suivre. Enfin, ça a été une évidence, quoi. Alors que j'étais vraiment, vraiment très, très moqueuse des croyants, finalement.
Donc, un parcours à entreprendre. Qu'est-ce que vous
après,
avez
c'était
changé
le début. Ouais. Après, c'était le début du parcours de combattant, ouais. Parce qu'il a fallu tout changer, il a fallu tout revoir. Ma vie avait... Vous savez, quand je suis rentrée dans ma chambre pour lire la Bible, le couloir, voilà, avec le mur blanc, le parquet, avait une certaine apparence. Et quand je suis sortie de ma chambre, après avoir lu les évangiles, j'ai vu un autre couloir. C'était un nouveau couloir qui menait vers une nouvelle vie. Et là, j'ai dit, à partir de maintenant, ma vie va changer. Je n'avais aucune idée comment, mais je savais qu'elle allait changer.
Pourquoi vous parlez de parcours du combattant ? On se dit, quand on rencontre Dieu, quand on découvre la vie de Jésus, et que tout d'un coup, ça illumine sa manière de voir, on peut se dire, après, tout va être facile. Vous parlez d'un parcours de combattant, pourquoi ?
Parce que, finalement, il y a beaucoup de choses dans sa vie qu'on mettait un peu sous boisseau, ou qu'on voulait pas voir, ou même des relations parfois toxiques avec des gens, ou des choix qu'on a fait dans sa vie. J'avais certains amis que je n'ai plus maintenant, j'ai eu de nouveaux amis, ma forme artistique aussi par rapport au piano, je me suis dit finalement mon expression artistique, elle est avec le piano, mais peut-être pas sous cette forme.
Vous avez gagné une autre maturité.
Une autre maturité, une autre liberté intérieure. C'était surtout la liberté intérieure. De dire, je pense comme ça et je suis une personne digne. Et donc, je ne suis pas un bon soldat d'un système qui interprète finalement Beethoven très très bien. Et j'ai besoin de raconter une histoire. Et c'est comme ça qu'est né mon premier album Eldorado, qui est un album hispanique qui avait un début de scénarisation. Et ça m'a donné des idées artistiques aussi.
Est-ce que vous avez recommencé à écrire à Dieu ?
Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas écrit à Dieu, mais j'ai écrit sur Dieu. Et tous mes écrits, parce que je n'ai jamais cessé d'écrire mon journal intime, en effet. Quand j'avais 13 ans et j'ai écrit à Dieu, j'ai nommé mon journal intime avec un nom de doudou. Et là, j'ai abandonné ce nom. Et je me suis adressée vraiment à mon intérieur et en parlant que par le prisme, finalement, de ma foi.
Est-ce que c'est difficile quand on a une vie accomplie, qu'on est connu, reconnu, qu'on a l'impression que tout va bien, puis tout d'un coup Dieu arrive et bouscule tout. Est-ce que c'est difficile alors, d'abord à vivre à l'intérieur de soi, mais aussi vous parliez de votre mari, donc en famille, et au fond comment on arrive à continuer à vivre simplement. Vous dites que vous vous êtes fait de nouveaux amis, donc vous avez découvert l'Église, la communauté diocésaine, la communauté paroissiale. Est-ce que ça a été facile pour vous ?
Ce qui n'a pas été facile, c'est que je vivais en concubinage avec mon mari qui était marié à l'Église, et donc j'étais interdite de baptême. Nous étions interdits de mariage alors que nous nous aimions. Et donc pendant 12 ans, ça a été un parcours du combattant à ce niveau-là aussi, puisque je vivais en situation de péché mortel. Et moi, je ne me sentais pas en péché, puisque j'avais vraiment l'impression que je découvrais la foi. Donc j'ai une sorte au début de sentiment d'injustice, parce que je vais vers Jésus et on me dit que tu ne peux pas avoir le baptême. Ça a été dur, mais ça a été dur peut-être quelques jours. Et après, on m'a dit... Il y a la possibilité de faire reconnaître le premier mariage nul et de pouvoir accéder au sacrement, mais il faut le temps du procès. Et ce procès a duré très longtemps, puisque j'ai attendu donc 13 ans. Mais le mystère de Dieu, et c'est là que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, puisque je n'ai jamais eu la moindre impatience, ni le moindre doute. Et dans ma personnalité, c'est plutôt le contraire. Je suis plutôt impulsive, impatiente.
Faut que ça aille vite, faut que ça avance.
Mais là, pas du tout. J'avais une confiance totale, et je savais que les choses se feraient quand elles se feraient, et elles se sont faites.
Lydie Solomon, vous avez quelle vie aujourd'hui ? Vous vivez dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, c'est pas un secret, dans le Magnoac. Donc vous êtes assez proche de Lourdes, ça doit quand même être une source de grande joie pour vous.
De grande joie, en effet.
On imagine aussi que vous n'avez pas mis un terme à votre carrière, donc vous bougez beaucoup, vous donnez des concerts, des récitals, des représentations un petit peu partout. Quelle vie vous avez exactement ?
Une vie d'oiseau libre. Donc ça veut dire que par contre je ne vole pas dans mes destinations de concert. Je peux prendre l'avion de Toulouse, c'est ce qui est très pratique, c'est que je peux habiter en effet, comme vous le disiez, dans le Magnoac. Donc ça me permet d'avoir une vie de nature, connectée à la nature. Et c'est vraiment, faut reconnaître que c'est vraiment là que je compose le plus.
Et c'est pas incompatible du coup avec votre carrière internationale.
Mais loin de là, même c'est même beaucoup mieux, parce que moi j'élève aussi mes trois enfants. Donc je compose, je peux jouer la nuit, je peux chanter la nuit. J'ai un lieu où je peux insonoriser, où je peux faire de la musique la nuit, ce qui est impossible à Paris, mais je vais à Paris lundi prochain, donc j'ai une vie très active à Paris aussi. Si je suis à Paris, je prends l'avion de Paris. Si je dois me déplacer, comme je le fais parfois, vous savez, je pars régulièrement sur les yachts de luxe Ponant pour faire des croisières où je fais des conférences concerts. Mmh. Donc ça peut m'arriver d'aller en Amérique centrale ou en Arabie. Là, je vais partir en Géorgie en tournée. Eh bien, je peux prendre l'avion de Toulouse. Donc, ça me laisse une liberté et finalement un espace intérieur, parce que c'est sûr que quand on voit les montagnes, les vaches, les grands pâturages,
ça vous inspire.
Ça me donne beaucoup plus d'idées musicales. Mmh. Ouais. Et mais à Paris, ça me donne une sorte d'électricité qui me permet de finaliser mes compositions, ce qui est assez.
Finalement, vous avez gardé cette habitude d'aller piocher un petit peu partout tout ce qui peut vous inspirer.
Oui, ouais, tout à fait. Partout, en tout cas, j'ai deux pôles. J'ai vraiment le pôle des Pyrénées et le pôle de Paris qui sont mes deux pôles de vie, enfin de résidence. Et puis après, quand je voyage, en effet, comme un oiseau libre, je me nourris de ce que je vois et ce que j'entends, et ça me donne des idées musicales très souvent.
Mm. Sur YouTube, on peut regarder un témoignage que vous avez donné devant un groupe de jeunes. Je voudrais qu'on parle de cette question avant de terminer cet entretien, de la question de la transmission. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux jeunes aujourd'hui, puisque finalement votre travail. Vous êtes au service du beau. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre?
Du vrai surtout.
Du vrai et du
vrai. Beau. Ouais. Et du beau. Le beau est une conséquence du vrai, je trouve. Mais j'aime bien insister sur le vrai parce que les jeunes aujourd'hui, justement, sont peut-être en proie à des questions qui les brouillent un petit peu avec tous les réseaux sociaux, cette incertitude, ce monde qui change à toute vitesse. Mmh. Finalement, qu'est-ce que je fais là? La Terre, de toute façon, elle est fichue. Donc, on est vraiment face à un monde qui est un peu inquiétant. Moi, ce que je peux dire, ce que j'ai dit à ces jeunes-là, c'est que la foi, en tout cas, mais la foi, c'est pas forcément la foi catholique, ça peut être la foi dans sa flamme intérieure, chacun avec sa religion, chacun avec ses convictions. En tout cas, la foi, ça veut dire la flamme intérieure, en fait, notre part immortelle, eh bien, elle n'efface pas les souffrances, mais elle leur donne un sens. Mmh. Et ça, c'est tout à fait différent, parce que c'est pas parce qu'on a une écharde, on a mal. Mais bon, on sait que on va faire ce qu'il faut pour l'enlever. Et puis le temps qu'on souffre, eh bien, on peut l'offrir pour pouvoir ressortir grandi. Et ça, c'est vraiment la chose que j'ai apprise avec la renaissance de ma foi. Eh bien, c'est que finalement, il faut tenir bon parce que même si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, eh bien, intérieurement, on a toutes les réponses déjà. Il faut juste s'écouter intérieurement et le chemin se trace de lui-même.
Est-ce que vous vous demandez encore, Lydie Solomon, ce que vous ferez quand vous serez grande?
Ah oui, c'est vrai. Oui, vraiment.
C'est vrai.
Déjà que je suis pas très grande, mais oui, on ne cesse de grandir et d'évoluer et de se découvrir et d'enchaîner les chapitres d'une vie comme un livre.
Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de projets et d'idées dont on pourra voir
échanger
et voir les fruits. Vous viendrez nous raconter tout cela
avec
très
plaisir.
Prochainement. Merci beaucoup.
Merci
Lydie
à
Solomon
Rose,
pour ce
merci.
Témoignage.
Présence à Salis du Salat, 94.1.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
J'espère que vous allez passer une bonne semaine. On était au Pays Basque la semaine dernière.
Oui, en compagnie de Beaux Oiseaux et d'Augustin Chao.
Exactement. Et on va se rapprocher de la Bigorre, où sont les studios de Radio Présence, puisqu'on va en Béarn, juste à côté.
Oui.
Béarn. Grosso modo, c'est la moitié des Pyrénées-Atlantiques, puisque
oui.
Les Pyrénées-Atlantiques ont deux belles régions, le Pays Basque et le Béarn.
Et le Béarn,
voilà.
Oui.
Et voici la terre donc de Béarn, vue par Charles de Bordeux, et la famille de Bordeux est célèbre en Béarn.
Assurément, Philippe, parce que son arrière-grand-père paternel a été le premier juge de paix d'Arudie. Et Charles de Bordeux est aussi l'arrière-petit-neveu de Théophile de Bordeux, qui est né à Izest en 1722 et qui avait été surnommé le Voltaire de la médecine parce qu'il était à la fois philosophe et médecin.
Et l'ami de Diderot, à qui on avait confié la direction de l'encyclopédie.
Et d'ailleurs, Théophile de Bordeux a rédigé un article pour l'encyclopédie. Il s'intéresse à ce qu'on appelle une crise en médecine.
Ah.
Enfin, une crise sur un plan médical. Hein.
D'accord. Il a fait aussi beaucoup pour le développement du thermalisme dans les Pyrénées. Mais aujourd'hui, c'est Charles de Bordeux qui est à l'honneur. Voilà. Eh bien, on vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Charles de Bordeux est né à Izest en 1857. C'est en Béarn qu'il passera le plus clair de son temps, menant une vie de gentilhomme campagnard, ce qui lui a permis de se consacrer à la littérature. Il écrit des nouvelles, des romans, des livres de souvenirs, et il ne cesse de chanter sa terre natale, comme dans ce livre au titre évocateur « La terre de Béarn ». Dès la première page, il précise « J'habite le village d'Abos, dans la plaine du Gave. » Et cette plaine, il la décrit à chaque saison. La voici en automne. Hier, le vent d'ouest soufflait par rafales. Je regardais passer les nuées, voler les feuilles et la pluie tomber sur la colline. Ces nappes de fougères et de bruyères, éclatantes la veille, me paraissaient de tristes et grands haillons agités sous l'averse. La plaine était morne comme les villages. Les troupeaux de brebis, parsemés dans les chaumes, y broutaient à côté des bergers, et ceux-ci vaguaient, lents et grandis par le manteau de bure à capuchon, qui les enveloppait de la nuque aux sabots, couleur du temps et de hallier roux, épais contre les ondées et la bise. Voici de nouveau le bel automne. Il rallume, ravive et harmonise à l'éclat du ciel ses magnificences. Il rend à ses feuillages fripés hier la richesse et les splendeurs accoutumées. C'est en cette saison et par ce temps qu'il convient mieux de voir des hauteurs du pays les vagues de terre ondulées. Ces deux collines jumelles s'élèvent au-dessus de leurs voisines, comme le Pauzette et le Nétou dans les Pyrénées. Celle où d'abord j'ai monté porta un camp romain sur son plateau. Forteresse de terre au talus régulier, sur des fossés mal comblés encore, édifice en carène, dont ses talus figurent la coque et les bordages. Quelques arbres les mâts et une maison tombant en ruine avec ses communs, le château de Poupe. L'éperon du navire est pointé vers le sud. L'autre coteau s'élève en dôme. Il creuse ses ravins, déjà profonds, découpe ses gorges, bosselle sa croupe et se subordonne les collines prochaines avec une grandeur non humiliée devant la majesté des montagnes, vaste houle d'azur au midi déroulé dont les cimes s'aiguisent en cristaux étincelants. Voici presque la montagne, bien qu'il n'y ait ni roche ni précipice, tant sont âpres les pentes de ces collines et leur structure superbe. Du côté nord, surtout, leurs flancs s'évasent et dévalent d'une telle raideur qu'à mi-corps, la zone d'un hallier abattu récemment, dont le vide étonne mes yeux, et la campagne au pied, le troupeau des hauteurs et le cirque des bois dans les bas-fonds, imite jusqu'au commencement du vertige la grandeur pyrénéenne. Calme, puissance, eurythmie, lumière. Cette sublimité des granites et des neiges couronne l'horizon, l'amplifie et l'élève. Annexe à sa majesté sourcilleuse ce royaume de plaines et de vallons. J'ai vu ce paysage en chaque saison et sous tous ses aspects depuis mes jeunes ans. Et je l'aimais toujours d'une admiration autrefois plus païenne, voluptueuse et chargée d'orgueil, attentive pourtant, déjà pleine et sérieuse. Je contemple comme on prie maintenant. Je ne viens pas ici sans recevoir un peu de la sérénité essentielle. Voilà ce qui règne dans la nature et se répand ses étendues. Ordre, obéissance, grandeur maternelle, travail, enfantement sans lassitude. Telles sont les pensées que la terre propose à nos esprits trop subtils. Voilà la simplicité des chants d'automne et ce qui se passe à ce moment sur les parois transparentes au cœur des monts lointains. C'est la force en action sous l'écorce des chênes. Les fumées, les chants, les pensées montent. l'on perçoit la respiration de la vie qui s'exhale et s'élève par attraction céleste dans le paysage qui la contient. Une âme providentielle y palpite, sensible, sous ces formes de la terre qui la révèle et la concrétise. Dans l'esprit ému par ses grandeurs, un calme harmonique s'accomplit. Il contient et couvre les frémissements de la vie profonde. Me voici encore au camp romain. Je regarde s'abaisser devant moi les tranquilles pyramides des collines. Un village s'allonge au bas de ce coteau, dans les plis d'autres maisons gîtes. Il porte quelques champs, des vignes et des prairies, avec l'ampleur d'un mont. Des vendangeurs chantent encore dans ces vignes. Elles étendent, parmi les pourpres du coteau, leurs carrés en feuilles de velours, d'un velours d'or, royal et d'étain, râpé fastueusement. Charles de Bordeaux s'est révélé dans ses écrits un grand peintre du Béarn, de ce Béarn qu'il a tant aimé. Il faut dire qu'il a l'art de décrire le paysage qui s'offre à lui en toute saison. Et dans le lointain, il aperçoit les Pyrénées qui portent des forêts étagées, des lacs, des pâturages. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Charles de Bordeaux, ouvrage intitulé « La terre de Béarn » et republié en 1980 par les éditions Jeanne Lafitte.
Alors Anne, Charles de Bordeaux a eu le bonheur d'habiter en Béarn, et c'est vrai que c'est une très belle région.
Belle terre.
Il ne cessera d'évoquer cette terre en toute saison.
Célébrer la beauté du Béarn, de cette région si belle, est en effet le thème principal de son œuvre.
Il écrit que le village d'Abos est son champ d'action, l'asile de ses habitudes héréditaires, le domaine de ses pensées.
Et il dit même, Philippe, voilà le cloître de mon esprit et l'horizon de ma vie.
C'est beau. Ah oui. Et c'est dans ce Béarn qu'il connaîtra la paix du soir qui a quelque chose d'éternel.
Cette paix du soir dont vous parlez et qu'il aimait tant, il pourra la savourer jusqu'à la fin de sa vie, car il meurt à Abos en septembre 1926.
La semaine prochaine, nous irons, oula, nous prenons de la hauteur, nous irons au grand pic, le pic du Midi, et à la Brèche de Roland, en compagnie de son Altesse royale, la Duchesse de Berry.
Eh oui, Philippe.
Ben, elle est allée aux deux.
Oui, elle est allée au pic du Midi et à la Brèche de Roland, on va le voir.
Elle était sacrément vaillante, la Duchesse de Berry, pardon.
Oui. En partie à cheval et en chaise à porteur.
Oui, voilà.
Donc, pas toujours à pied.
Pas toujours à pied. C'était pour ceux qui la portaient que c'était compliqué. Et c'est vrai que les nobles à l'époque se faisaient porter, il y avait des porteurs.
Oui.
Et dans des endroits un peu compliqués.
Oui, ne serait-ce que déjà la fameuse brèche de Roland.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Anne. Qu'est-ce qu'on vous souhaite une excellente semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et excellente semaine à tous les auditeurs de Radio Présence. Et à vous, Philippe.
Oh, ben merci. Et qui vous écoute avec beaucoup de plaisir, je le sais. Au revoir, Anne.
Au revoir, Philippe.
Put your head on my shoulder.
Alan Mezan 92.2. Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Se faire la voix des pauvres et des exclus, apporter des contributions sur l'équité, la famille, l'éducation, la paix ou la technologie.